ces marins-là qui vont en solitaire.
Vous êtes enceinte? Ma grossesse est là pour vous soutenir dès le début. C'est un service gratuit et confidentiel pour vous aider à trouver un professionnel pour le suivi de votre grossesse. Ma grossesse, c'est aussi un accès à des services adaptés à vos besoins et de l'information sur la préparation à l'accouchement, les besoins du bébé, l'allaitement et plus encore. Vous êtes enceinte? Remplissez le formulaire sur québec.ca/ma-grossesse ou communiquez avec votre CLSC. Un message du gouvernement du Québec.
Au centre de ma ville se trouve une station de radio, au centre de laquelle diverses équipes linguistiques travaillent jour et nuit. Au centre de leurs soucis, les intérêts des moins nantis. Le 5FM se préoccupe de la situation des gens d'ici. Promouvoir la réalité des minorités, telle est la priorité de Radio Centre-Ville. 102.3 FM. Et je t'aime.
Ils ont tous essayé. Ils ont tout fait sur notre dos. Aujourd'hui, nous pouvons prendre notre revanche avec le théâtre musical L'Impératrice d'Haïti.
Comment l'impératrice Claire, heureuse, félicité, bonheur, cherche à déjouer le complot contre l'empereur et contre Haïti en poussant à une alliance entre Célimène, fille de l'empereur, et le général Alexandre Pétion. En musique, en chanson, en plaidoyer, une fierté et une réussite nègre haïtienne.
Le théâtre musical L'Impératrice d'Haïti, en plaidoyer, en chanson, en musique, tout en dignité, une réussite nègre haïtienne.
Soyez fiers, soyez supportifs. L'Impératrice d'Haïti, le spectacle musical. Parlez-en, soyez présents.
Nous sommes actuellement en mode recrutement. Chanteurs, chanteuses, si vous êtes intéressés, appelez-nous. 438-881-4665. 438-881-4665.
Auditrices et auditeurs, amis de la radio, continuons à nous mobiliser pour la grande rénovation de Radio Centre-Ville, votre radio. Le mois de juin est consacré à la traditionnelle campagne de financement de la radio. Faites un don, soyez généreux en laissant parler votre cœur pour votre radio. Radio Centre-Ville, la radio des communautés. Objectif, 50 000 $.
Connaissez-vous les Caraïbes, son soleil, sa mer, sa gastronomie? Eh bien, à deux pas de chez vous, un petit tour et vous y êtes. Vous êtes au Barbec, où vos papilles sauront faire de merveilleuses découvertes tropicales. Pour la fine cuisine caribéenne, invitez donc vos amis d'ici et ceux qui ne sont que de passage. Puis au vin manger, savourez bonne cuisine lacaille. Le Barbec tropical, à l'angle des rues Jarry et Vio, juste à côté de l'autoroute 40. En amoureux et en famille, venez-y. Au restaurant Barbec Tropical, ouvert tous les jours de 11h à 22h.
De 9h à 10h en direct, le tour de la question, avec Sophie Stanquet sur les ondes de Radio Centre-Ville.
Mesdames, Messieurs, bienvenue au Tour de la question. Aujourd'hui, nos questions, le télétravail, c'est la fin. Comment va le retour des travailleurs? Nous aurons comme invité Diane Gabrielle Tremblay. Elle sera avec nous dans quelques instants. Et deuxième invité, on l'avait eu à New York et là, il est de retour en studio avec nous, Dr. François Barouel. La question, que devrions-nous garder comme mesures sanitaires de ce déconfinement? Et on va parler également de la variole du singe. Est-elle une menace? Avant de débuter, mesdames, messieurs, vous savez, j'en parle souvent, je suis une amoureuse des animaux et j'avais vu venir cette espèce de vague d'abandon. On avait eu plusieurs invités à ce niveau-là. Pas fière de vous d'avoir adapté des animaux pendant la Covid et de les laisser abandonné. Il y a un record à la SPA, la SPCA de Montréal, et ça va tellement mal qu'aujourd'hui, ils abandonnent les frais d'adoption pour pouvoir faire en sorte que les animaux, les chats, les chiens, se fassent adopter. Alors il faut y penser quand on adopte un animal. C'est un membre de la famille, vous avez fait ça comme un engouement, vous vous ennuyez parce que c'était le confinement et vous êtes des gens, je suis désolée de vous dire, vous êtes irresponsables et je trouve que c'est épouvantable ce qui se passe avec ces animaux qui n'ont pas demandé à ce qu'on vienne y chercher et puis tout d'un coup on s'en débarrasse parce que tout va bien, parce que la vie a repris. Voilà, c'était mon éditorial. Alors, ça a repris, comme je vous disais, le télétravail. Pour certains, c'est la fin. Pour d'autres, ils sont en train de négocier. Et comment va le retour des travailleurs? Diane Gabrielle Tremblay, professeure à l'École des sciences de l'administration à la Téléuniversité du Québec, TELUQ. Elle est spécialiste en gestion des ressources humaines, en économie et en sociologie du travail. Elle a un doctorat en sciences économiques à l'Université de Paris à la Sorbonne, un DEA de troisième cycle en sociologie du travail. Et elle est professeure à la TELUQ depuis 1988 et professeur titulaire depuis 1994. Bonjour Diane Gabrielle Tremblay.
Oui, bonjour Sophie.
Alors en ce moment, comment ça se passe au niveau du télétravail? Qu'est-ce que vous avez comme portrait ou juste des venant des travailleurs?
Ben, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que, bon, on le sait, tout le monde a été précipité tout d'un coup, là, dans le télétravail. En fait, 40% à peu près de la population au tout début. Par la suite, il y a eu un peu des retours. Donc, on pouvait se retrouver à des taux peut-être d'environ 30% de la population active, là, qui continuait à faire du télétravail pendant toute la période de pandémie. Donc, on est un peu dans ces eaux-là aujourd'hui. On sait que de plus en plus d'organisations souhaitent que les travailleurs reviennent au bureau au moins quelques jours. Alors, ça dépend des organisations. Dans certains ministères, dans la fonction publique, parfois, on a reporté carrément au mois de septembre les retours. Dans certains cas, on réaménage les locaux, les espaces. Dans d'autres cas, on a déjà commencé à retourner à 2 jours semaine ou 3 jours semaine. C'est ce qui semble être le plus fréquent, ce qu'on appelle ce modèle hybride, en partie au bureau, en partie à domicile. Bon, qui a quand même évidemment des exigences particulières, là, parce que tout à la maison, c'était une chose, tout au bureau, c'est une autre chose. Entre les deux, ben, ça demande des ajustements de la part des organisations comme des travailleurs aussi.
Alors, ça a changé la vie des travailleurs, autant des employeurs. Est-ce qu'au Québec, dans vos chiffres, dans votre portrait, on est plus tenté à rester en télétravail que le reste du Canada?
Ben, c'est difficile à dire parce qu'en fait, le monde anglo-saxon avait plutôt une avance par rapport au monde, si on peut considérer le Québec comme faisant partie du monde latin. En fait, le Québec, on était un peu entre les deux avant la pandémie. C'est-à-dire que le monde anglophone, Canada, anglais, États-Unis, même les pays nordiques d'ailleurs, avaient un peu plus développé le télétravail que nous. Par contre, nous, on l'avait développé davantage que la France, le sud de l'Europe, par exemple. Donc, on pouvait déjà prévoir que, en fait, on sait aussi, le constat, moi, que je faisais, c'est qu'il y avait une espèce de demande insatisfaite pour le télétravail parce que les personnes qui demandaient à leur employeur d'en faire et les employeurs étaient plutôt réticents ou les gestionnaires, surtout les gestionnaires immédiats, le supérieur immédiat, souvent préféraient avoir les gens au bureau. Donc, ça n'évoluait pas énormément. Maintenant, je dirais que c'est assez semblable. Au fond, ça dépend du type de tâche. Statistique Canada a quand même évalué, selon les provinces, les différentes provinces canadiennes, les tâches qui peuvent se faire à distance. Et au fond, selon la composition de l'économie, l'Ontario est un peu en avance avec tout ce qui est le secteur financier, les bureaux là, à Toronto. Le Québec suit vraiment, mais très, très près. Et alors après, ça dépend aussi des pratiques de gestion dans les organisations. Donc, on peut penser que Ontario-Québec, c'est assez développé. Vancouver aussi, la Colombie-Britannique. Mais là où on a des provinces où il y a peut-être un petit peu plus d'activités bon, agricoles ou primaires ou autres, là, le télétravail, évidemment, est un peu moins développé. Mais clairement, c'est, bon, dans tous les secteurs où c'est possible, on exclut évidemment l'hôtellerie, la restauration, le commerce de détail. Mmh. Dans ces secteurs-là, les cadres peuvent éventuellement faire un peu de télétravail, mais en général, ils vont souhaiter quand même être proches de leurs équipes et de l'activité comme telle, là, de l'organisation. Donc, c'est plutôt dans les administrations publiques, dans les bureaux, dans même une entreprise manufacturière, la partie bureau peut être davantage en télétravail. Et encore là, chaque organisation, certaines vont décider qu'elles souhaitent quand même que le personnel de bureau soit plus présent quand même aussi dans l'usine ou dans le secteur manufacturier, parce qu'il y a une espèce de dynamique collective et puis certaines organisations veulent préserver ça. Alors, il y a vraiment quand même, surtout maintenant, là, je dirais jusqu'en septembre, les choses vont certainement beaucoup bouger, le temps que les organisations se réadaptent. Certaines ont diminué leurs locaux, donc vraiment dans la perspective où les espaces seraient partagés. Ça, c'est pas toujours facile non plus, comment partager les espaces, qui vient quel jour, quand on a tout d'un coup besoin d'y aller, il y a une réunion qui s'annonce à la dernière minute ou qui est modifiée. Donc, ça présente quand même des défis, mais la plupart des organisations sont vraiment à réfléchir pour vraiment bien organiser ce retour, tout au moins partiel, au bureau.
Alors, ça a changé la vie des travailleurs, mais des employeurs. On entend parler en ce moment d'espèce de guerre, si on veut, c'est-à-dire que les employés ont trouvé qu'ils étaient plus efficaces à la maison, en télétravail. Et là, le retour imposé par le travailleur, par l'employeur, ça fait pas l'affaire. J'ai entendu parler, mais vous allez me dire si c'est un cas de figure où quelques personnes ont même mis ça dans leur contrat d'engagement, dire ben voilà, j'accepte de travailler pour votre entreprise si je suis en télétravail.
Effectivement, on voit de plus en plus dans les entrevues de sélection certaines personnes qui vont considérer que le télétravail fait partie des conditions de travail et qui vont exiger que ce soit aussi clair sur cette question-là que sur les autres aspects, salaires, avantages sociaux. Beaucoup de personnes vont arriver même à une entrevue de sélection en demandant, en exigeant, en disant, ben moi, je souhaite faire 3 ou 4 jours de télétravail systématiquement. Donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. En fait, j'ai tendance à penser qu'au fond, maintenant, nos bureaux, nos espaces de travail doivent être orientés selon les tâches. C'est-à-dire que si on est assez indépendant, qu'on fait son travail, on est professionnel, on a des tâches à accomplir, mais on n'a pas besoin d'interaction avec les autres, à ce moment-là, on peut opter pour, finalement, une majorité du temps en télétravail. Peut-être, surtout si on connaît déjà l'organisation, on connaît tout le monde dans l'organisation, il y a des gens qui vont dire, ben, j'ai pas besoin de passer au bureau, même si fréquemment, on s'organise des réunions sur Zoom, Teams ou autre. Alors ça, c'est une option. Par contre, dans d'autres milieux, on pense au secteur de la publicité, des relations publiques, ben, même dans les médias, parfois les gens disent, ben, pour décider d'une campagne publicitaire ou d'un sujet d'émission ou autre, ben, le remue-ménage, ça peut se faire en ligne, hein, on le fait quand même depuis 2 ans, mais certaines personnes, certaines organisations vont juger que c'est plus créatif, plus innovateur, plus dynamique en présence, et donc à ce moment-là vont souhaiter que les personnes se rencontrent justement pour des tâches précises. Et non pas que, parce que là, c'est vrai que les gens réagissent négativement quand leur employeur dit, ben, il faut venir au bureau 4 jours, alors qu'il y a peut-être 2 ou 3 heures seulement où on est en contact, où on a des réunions, par exemple. Ça peut être vu négativement. Par contre, il y a aussi des études qui montraient, d'ailleurs, déjà avant la pandémie, que la créativité, l'innovation, ça vient parfois aussi des rencontres au hasard. C'est-à-dire que dans le couloir, je peux rencontrer des gens d'une toute autre équipe, que ce soit la recherche-développement, toute une série de secteurs qui sont différents du mien. Alors que les rencontres en ligne, en général, bien sûr, c'est plutôt mon département, mon équipe. Alors, on est un peu plus limité. Alors, si la créativité et l'innovation sont importantes pour les personnes, à ce moment-là, effectivement, c'est vraiment important pour les entreprises de... les personnes viennent parfois au bureau. Alors, il y a vraiment des tendances différentes selon les secteurs, je dirais. Mais vous avez raison, beaucoup de salariés, clairement, d'abord, beaucoup de gens le souhaitaient avant la pandémie. Les gens ont démontré qu'ils étaient capables d'être aussi productifs. Ça, c'est vraiment clairement démontré. Les petits inconvénients, d'ailleurs, justement, des personnes qui se disent moins productives, ça, c'est une enquête de Statistique Canada aussi qui l'indique, elles disent que justement, c'est le manque d'interaction qui les motive moins, qui les rend moins productives, ou alors l'espace dans lequel elles travaillent. D'ailleurs, il y a un lien ici avec le fait d'être propriétaire de son logement, donc vraisemblablement ou une maison ou un plus grand appartement, alors que chez les locataires, parfois, peut-être, on a un plus petit espace, et surtout si on est deux télétravailleurs, c'est rare quand même...
D'avoir des bureaux, oui.
Il y a deux bureaux, oui, ouais. C'est ça.
Ouais. Oui, tout à fait. Alors, vous parliez justement de l'espace, ça a dû changer quelque chose, ce retour, c'est-à-dire que peut-être que les employeurs ont des espaces qui sont inadéquats en ce moment, c'est-à-dire les grands espaces ouverts où personne ne peut s'isoler, personne ne peut se concentrer. Ça aussi, ça a dû bouger énormément. La façon de fonctionner n'est plus la même. Se rendre compte que finalement, être tranquille à la maison, et c'est plus efficace que peut-être dans un espace où tout le monde est là et on s'entend plus parler même. Est-ce que ça a changé quelque chose, les espaces physiques chez les employeurs?
Ben, c'est vrai que, déjà avant la pandémie, on commençait à aller vers cette mode des aires ouvertes là, qui avait commencé peut-être notamment dans les secteurs multimédia, jeux vidéo, dans les médias aussi, il y a des salles de presse, tout est ouvert. Encore là, je pense que ça dépend du type de tâche. Ce qui est malheureux, c'est que ça s'était étendu vers des secteurs ou des activités qui n'étaient pas toujours appropriées. Quand les gens ont besoin de se concentrer, certaines personnes y arrivent avec un bruit ambiant autour, d'autres personnes y arrivent moins bien, ce qui fait que dans certains milieux, avec air ouverte, on voyait les gens se mettre des écouteurs sur les oreilles. Mmh. Alors, ça varie beaucoup. Ce qui est un peu embêtant maintenant, c'est que certaines organisations se sont dit, bon, à partir du moment où tout le monde n'est pas là 5 jours semaine, on va réduire l'espace. Et là, ben, si on réduit l'espace et qu'on va vers des aires ouvertes pour que les gens puissent... Enfin, au fond, les personnes n'auront plus de bureaux réservés. Ça, c'est quand même un petit peu plus compliqué, évidemment, parce que, s'il faut tout planifier, bon, est-ce que je vais au bureau tel jour, tel autre jour, c'est comme si les agendas ne changeaient jamais. Alors, on sait que très souvent, on met une réunion, telle est annulée, une autre s'ajoute. Donc, il y a un petit élément de complexité, mais oui, on a vu d'ailleurs des organisations réduire de manière importante l'espace de travail. Il y a même, on voyait dans les médias récemment, une grande entreprise de publicité qui a même abandonné ses propres locaux et décidé de s'installer dans un espace dit de coworking. Ça, on le voyait plutôt pour les petites entreprises, pas des petites start-up qui allaient s'installer. Et il y a une demande de ce côté-là aussi qu'on voyait moins en Amérique, mais qu'on voyait en Europe, c'est-à-dire que des employés d'une organisation puissent aller travailler dans un espace de coworking, qui est un espace, effectivement, souvent ouvert. Parfois, il y a quand même des bureaux fermés, mais on en trouve à différents endroits, banlieue nord, banlieue sud, par exemple, autour de Montréal. Ça se retrouve aussi. Et ça, en tout cas, les personnes que je connais là, qui gèrent en fait ces espaces, nous disent que des personnes qui habitent en banlieue vont souhaiter, par exemple, aller travailler quelques jours dans ces espaces pour ne pas être à plein temps à domicile. Mm-hmm. Certaines vont obtenir, certains employeurs vont réserver, par exemple, 4 ou 5 ou 10 places dans un espace, et leurs employés qui habitent dans telle ou telle banlieue peuvent aller occuper ces espaces-là une journée par semaine ou deux journées par mois, ou pour simplement avoir plus une dynamique différente, disons. Et toujours au fond, en fonction de la personnalité. Il y a des gens qui trouvent ça difficile, qui ont trouvé ça difficile d'être toujours seul à la maison.
Alors, il y a aussi des nouveaux mots là qu'on apprend, c'est-à-dire le travail vacances. Qu'est-ce que c'est au juste? Parce que c'est une mode en ce moment, qu'est-ce que c'est au juste ce travail vacances?
Alors ça renvoie à l'idée, au fond, que l'on peut faire son travail n'importe où, en tout lieu, finalement. Et donc, il y a des organisations qui permettent à leurs employés de faire leur travail à l'extérieur complètement. Et donc, l'idée, parfois, c'est de combiner un peu des vacances avec le travail. Alors, les personnes vont aller dans des endroits, disons, plus exotiques et attirants. On voit des propositions, d'ailleurs, dans certains pays, que ce soit la Thaïlande, le Costa Rica, les pays d'Amérique latine, le Mexique. boutiques, il y a des organisations, des hôtels ou des endroits qui sont plutôt, je dirais, appartements-hôtels. Là, on a des chaînes qui sont spécialisées dans ces créneaux-là qui vont dire, ben voilà, vous pourriez venir travailler dans nos espaces et vous êtes en même temps un petit peu en vacances. D'ailleurs, ça se développe au Québec. Hein? À Sutton, il y a une organisation qui, au fond, les gens peuvent, par exemple, dire, ben moi, j'aimerais bien peut-être me rapprocher là, de la campagne pendant 3 mois d'été ou au contraire pendant les 3 mois d'hiver où on peut faire du ski alpin. Donc, je loue en fait un appartement à tel endroit. À celui à Sutton, il y a disons, un partage, il y a une cuisine collective, des choses comme ça. D'autres, ce sont carrément des appartements-hôtels où chacun, disons, a son espace privé pour vivre, mais par contre, un espace collectif, par exemple, genre salon, ça peut être, bon, indépendant aussi, là, ça peut être une piscine ou autre. Alors là, il y a vraiment cette idée de combiner effectivement les vacances avec le travail. Alors là, ça dépend des organisations. Il n'y a pas énormément d'organisations qui sont allées aussi loin que ça. Il y a une question bon, d'horaire aussi. Si on souhaite que les gens puissent participer à des réunions, il faut voir est-ce que les horaires, c'est possible. Oui. Il y a 12 heures de décalage, c'est compliqué.
C'est
mais quand même, on va vers ça. Il y a quand même une bonne demande, surtout de la part de professionnels ou qui peuvent travailler en toute autonomie. Alors, on voit, ça se développe à l'étranger, mais aussi, ça commence à se développer au Québec.
Alors, c'est complètement nouveau. Au niveau du droit ou des droits qu'ont les employés, les travailleurs, est-ce que on travaille là-dessus? Parce que c'est sûr que le télétravail, vous l'avez dit, c'est plus efficace. Donc, certains vont dire à leur employeur, maintenant, moi, je veux rester, je suis plus efficace. Mais quels sont les droits? Est-ce qu'on travaille sur un code d'éthique à ce niveau-là et des droits pour que les gens puissent rester en télétravail éventuellement?
Ben, de manière générale, ce qu'on semble faire dans la plupart des organisations pour le moment, c'est plutôt des annexes aux conventions collectives, lorsqu'il y a une convention collective, ou alors une entente individuelle où l'employeur précise des conditions, que ce soit des horaires, d'être disponible de pouvoir être joint à tel ou tel moment, ou alors, par exemple, de pouvoir se rendre au bureau en dedans de 2 ou 3 heures, donc de ne pas justement être à l'étranger. Il y a quand même un bon nombre d'organisations qui souhaitent que les gens soient au Québec. Il y a des enjeux de fiscalité aussi. Évidemment, si les gens sont salariés, où sont-ils payés? Il pourrait même y avoir des risques éventuellement pour les personnes parce que les employeurs pourraient se dire ben, tant qu'à avoir mon salarié d'ici que je paye beaucoup plus cher que quelqu'un par exemple du Mexique ou du nord de l'Afrique, Maghreb par exemple, ben éventuellement je pourrais directement embaucher des personnes dans ces pays qui me coûteraient beaucoup moins cher.
Il
y aurait évidemment leur au fond tous les avantages sociaux seraient associés au pays. Donc il y a plutôt pour le moment des questions sur cette question-là et c'est clair, l'employeur a toujours quand même le droit de gérance. Donc l'employeur dans beaucoup de cas va déterminer, va dire ben d'accord, vous pouvez travailler chez vous mais bon pas à l'extérieur du Québec. Par exemple, puisque vous êtes des salariés d'une organisation québécoise. Si vous êtes un salarié à l'extérieur du Québec, à ce moment-là, ben, il y a toutes les questions non seulement d'avantages sociaux, mais aussi bon, l'assurance santé, ces questions-là, la sécurité au travail, c'est pas la même chose, même d'une province à l'autre. Donc, peut-être que dans les prochaines années, il y aura des développements sur ce plan-là pour que on s'assure justement que, ben, que les salariés soient couverts, soient protégés, même s'ils ne sont pas au Québec, même s'ils ne sont pas, s'ils travaillent à Montréal, s'ils ne sont pas dans la région métropolitaine. Il y a un petit peu d'enjeux, là. Surtout, disons, à l'extérieur du Québec ou à l'extérieur du Canada, ça pose certainement des questions. Et pour le moment, les employeurs vont plutôt soit permettre, parce que bon, il y a quand même aussi des gens qui ont travaillé à l'étranger depuis toujours, hein, des expatriés ou des choses comme ça. Dans ces cas-là, il y a toujours des contrats. Donc, j'ai l'impression qu'on va regarder du côté de ces contrats-là et soit qu'il y aura des ententes collectives, des conventions collectives ou alors des ententes individuelles pour vraiment prévoir où les personnes peuvent travailler, comment elles sont protégées et qu'est-ce qu'on attend d'elles en termes de disponibilité, par exemple. Donc, c'est en mouvance, je pense, en ce moment, mais il y a parce que c'est tout nouveau, mais il y a quand même des choses dont on peut s'inspirer, justement, quand j'évoque les expatriés, quand une entreprise envoyait déjà des gens à l'international, c'était quand même tout prévu, tout ça. Là, il y a vraiment des ententes très claires pour les avantages sociaux, la protection des personnes, la santé et tout ça. Donc, je pense que probablement qu'on en viendra à s'inspirer peut-être de ces clauses-là. Certaines organisations qui, pour le moment, sont plutôt réticentes pourraient aller dans ce sens-là en mettant des balises, finalement, et en prévoyant vraiment la protection des personnes du point de vue de la santé et de la sécurité au travail.
Qu'est-ce qui va rester, d'après vous, en terminant du télétravail? Qu'est-ce qui va rester dans les pratiques des employés et des employeurs?
Ben, je pense que, en fait, ça a été vraiment un bouleversement majeur quand même. On est passé de moins de 10% de télétravail et encore de télétravail occasionnel à une ou deux journées semaine, par exemple, souvent en obtenant l'autorisation du supérieur immédiat pour le faire. On est passé à vraiment un taux beaucoup plus élevé et moi, je pense qu'on va rester dans l'ordre de 25 à 30% de gens qui continuent à faire du télétravail et sur une base beaucoup plus régulière, plutôt les 2-3 jours, ce dont on entend beaucoup parler, mais sans doute aussi beaucoup de personnes et beaucoup d'organisations qui vont même souhaiter le développer à 5 jours semaine. Lorsqu'une personne n'a pas de tâches interdépendantes ou très peu avec d'autres, on peut très bien imaginer que des gens vont souhaiter faire du télétravail. Alors après, c'est vrai qu'il va se poser un peu une autre question. On parlait récemment là de la déconcentration des villes, des coûts, mm-hmm. du développement des banlieues. Plus elles s'éloignent, c'est des coûts aussi pour une société que de devoir construire des hôpitaux, des écoles, un peu partout. Donc, je pense qu'il y a un petit questionnement là, de ce côté-là. C'est intéressant du point de vue du développement des territoires, la revitalisation des régions, mais au fond, il va falloir mettre en balance, à un moment donné, les coûts, même de développement de transport, d'autoroutes et autres. Peut-être qu'on économisera parce qu'il y aura moins de gens qui viendront des banlieues vers Montréal. Par contre, est-ce que à l'échelle du Québec, il faut investir ailleurs pour d'autres services. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qui vont se développer autant sur le plan du territoire aussi, mais clairement, avec l'expérimentation de 2 ans de télétravail très intense, mm-hmm. c'est clair, la majorité des salariés ont apprécié, les employeurs ont vu que ça pouvait se faire, que ça fonctionnait très bien. Donc, c'est clair que le télétravail est là pour rester et avec des pourcentages beaucoup plus élevés qu'avant et un nombre de jours beaucoup plus élevé qu'avant.
Un grand merci, Diane Gabrielle Tremblay. Merci.
Merci, ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
Vous aussi, au revoir.
Vous écoutez Sophie Stanquet à Radio Centre-Ville.
Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas bon. Mon est la charité, c'est quelque chose je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on demande comment je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre. Moi je prends mon violon et j'attrape mon archer. Et je joue ma vieille valse pour faire mes amis danser. Vous connaissez mes chers amis. Chanter, travailler, c'est trop dur.
Vous écoutez le tour de la question. Nous sommes en direct jusqu'à 10h à Radio Centre-Ville. René Di à la réalisation de l'émission. La question, la seconde question de l'émission. Que devrions-nous garder comme mesure sanitaire de ce déconfinement? Et la variole du singe est-elle une menace pour nous? Docteur François Barouel est avec nous en studio. Il est président du conseil incorporation. Docteur Barouel est également connu pour ses chroniques de santé et ses animations à Canalet. Bonjour, très heureuse de vous accueillir en studio.
Bonjour Sophie.
On se reprend parce qu'on a eu un petit rendez-vous manqué à New York, ça arrive comme ça, ouais. Hein, même une des plus grandes villes, ouais, des ouais, fois ouais. Les réseaux sont marchent pas là-bas, alors
c'est
voilà.
C'est très curieux, l'internet est très très développé, mais par contre on n'arrive pas à téléphoner.
Oui. Elle est très bonne celle-là. Alors, est-ce que c'est un petit peu compliqué la Covid encore? Qu'est-ce qu'on doit garder de ce déconfinement?
Ce déconfinement, là, il faut en profiter parce que c'est pour le moment une aubaine et il fait beau, enfin presque beau. La température remonte, il faut profiter de l'été, de l'espace dont on dispose. Il faut se déconfiner et respirer un grand air, aller à la campagne, etc. pendant que le temps y est. Il faut par contre garder des précautions, c'est que lorsqu'on rentre dans un espace confiné, il faut vraiment conserver son masque. Je pense qu'il vaut mieux le conserver. Ceux qui ne veulent pas le conserver ne le prennent pas, c'est pas un problème. Mais pour ceux qui sont encore un petit peu conscients ou inquiets de la pandémie et du risque de récidive ou de continuation, il vaut mieux conserver son masque quand on entre dans une petite boutique, quand on est entre amis ou quand on rentre même dans le métro ou quand on prend le bus ou qu'on est plusieurs personnes dans une voiture non aérée. Donc dans ce cas-là, c'est important de le faire. On peut aussi rajouter, si on veut, fabriquer facilement des épurateurs d'air ou des filtres à air simplement mécaniques qui sont faciles à fabriquer et qui sont très utiles dans certains milieux confinés. Fermé.
Lavage des mains. Ouais, bon, lavage des mains masque, dans l'ordre, ça serait quoi?
C'est masque. Masque et lavage des mains. Mais de toute façon, le lavage des mains, c'est indispensable d'un point de vue général. On rentre chez soi, on se lave les mains. Ça, c'est évident. On va prendre son repas, on se lave les mains. On sort de repas, on se lave les mains. On va aux toilettes, on se lave les mains. Ça, c'est sûr. Parfois même avant, parce qu'on a fait quelque chose, on a bricolé, on a fait la vidange de sa voiture peut-être. Hein, j'en sais rien. Bon, enfin bref, il faut se laver les mains la plupart du temps. Ça, c'est une chose qui a été découverte à la fin du 19e siècle, et c'est une chose qu'on avait tendance à oublier. Mmh. Les germes restent sur les mains en permanence. Les mains sont bien sûr un support, il y a un biotope sur les mains, il y a bien sûr des germes, mais ils vivent en bonne intelligence avec nous. Mais dès qu'on touche des choses différentes, on y apporte des colonies différentes de germes qui ne sont pas forcément sympathiques et qui peuvent être très pathogènes. Et donc, il faut se laver les mains, ça c'est sûr et certain. Il faut réapprendre aux enfants à se laver les mains avant d'aller à table.
Oui, alors finalement, bête, hein. Là, ils l'ont pas fait. À part le gel, c'est complètement oublié.
Voilà. Et le gel n'est pas forcément. C'est encore une industrie. Il y a rien de mieux que le savon et l'eau.
Oui,
hein.
C'est ça. C'est ce qu'on dit. Plus que le gel, de parfois les gens en mettent très peu et puis bon, c'est vient de finir. Quoi.
Bien sûr. Ouais. En plus, ils s'essuient les mains après ou ils n'attendent pas que ça sèche ou bien ils se remouillent les mains. Enfin bon, c'est mal utilisé. Et puis, je trouve que c'est vraiment la fabrication d'un tas de produits qui sont pas forcément très utiles et qui n'ont pas de raison d'être. Le savon et l'eau, c'est parfait.
Alors, donc, on a lavage des mains, mais vous avez dit le masque en premier.
Ah oui, le masque. Le masque, d'abord, c'est vrai qu'on peut se contenter d'un masque chirurgical, comment est-ce que ça s'appelle? C'est un masque de procédure.
Oui.
Et puis, on prend un masque d'intervention chirurgicale, c'est-à-dire le N95, dès l'instant qu'on est vraiment dans un endroit hyper confiné. Je pense au métro. Mmh. Je pense à l'avion.
Oui. Moi, l'avion aurait dû être là depuis le début d'ailleurs.
Bien sûr.
Covid ou pas, à chaque fois qu'on prend l'avion, on est toujours malade le lendemain, alors que dans le pays où on était très bien. À chaque fois, parce que tous les germes sont là, se promènent. Ça aurait dû être une pratique habituelle.
Il est très fréquent de voir des gens qui sortent de l'avion et qui se mettent à éternuer et qui ont un rhume.
Oh, c'est très classique. Toujours malade en sortant.
On est toujours un petit peu malade le lendemain et sur le lendemain. Et donc c'est vrai que moi je vais prendre l'avion, je vais prendre un N95, hein, ça c'est sûr. Hein, c'est sûr. Certains, je ne vais pas prendre le petit masque de procédure et je vais prendre un masque, même si c'est plus utile de le prendre. C'est parce que je ne veux pas non plus courir le risque, même minime, d'attraper la Covid.
Et donc là, on s'en va avec. Donc on parle de l'avion, rapprochement, aération, parce qu'on a vu que c'était et d'ailleurs c'est très bien que ça soit dans le débat, parce que les écoles à Montréal c'est inadéquat complètement. Ça il y en a pas. Ils sont en train de travailler là-dessus. Donc aération, on est rendu, ça c'est important. Là on parle d'un avion, oui. Tout le monde confiné pendant un certain nombre de temps. On sait pas trop si ça filtre bien, quand est-ce que ça aussi c'est un peu nébuleux, il y a pas vraiment d'obligation.
Ça les compagnies disent que l'air est renouvelé toutes les je sais pas combien de secondes ou minutes, ou deux minutes, mais en fait comment le voir, comment c'est le contrôler, j'ai aucun moyen de savoir comment est-ce que ça va être renouvelé et filtré cet air, j'en sais rien, d'autant plus que pour filtrer réellement un air avec une dans un espace confiné, il faut pour que ce soit vraiment efficace, il faut une machine très puissante avec un filtre extrêmement fin, et il faut une machine d'autant plus puissante que le filtre est fin. C'est-à-dire que si on veut garder, si on veut bloquer les virus, il faut vraiment que ce soit des trous dans le filtre qui soient de quelques nanomètres. Et donc, il faut une machine qui puisse pousser l'air à travers tout ça. Je me suis posé la question, puisque j'ai chez moi un air pulsé avec un filtre, et j'ai voulu mettre un filtre antiviral. Et en fait, on ne peut pas, parce que la plupart du temps, c'est impossible. La machine n'est jamais puissante, n'est jamais assez puissante. Et non. Elle n'est jamais assez puissante. Donc, on ne peut pas se mettre de filtre antiviral. Donc, ce n'est pas possible. Par contre, dans les écoles, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on ne fait pas, de filtre antivirus, mais on fait la concentration en CO2. On cherche la concentration en CO2. Normalement, il faudrait être à 500, à peu près 500 parties pour 1000 de CO2 pour que ce soit... pour que ce soit tolérable d'un point de vue virus, hein, puisqu'en fait, il y a une corrélation entre la concentration en CO2 dans une salle de classe et la concentration en virus, en gouttelettes de virus, en aérosol de Covid. Hein, d'accord.
Oui.
Donc, on s'est basé sur le CO2, finalement, pour pouvoir dire il faut qu'il y ait moins de. Et en fait, l'efficacité, ce serait moins de 1000. L'idéal, c'est 500. Et en fait, là, au Québec, c'est 1500. Les machines sont réglées sur 1500.
Donc là, ça marche pas.
Bah, ça marche pas bien, non.
Mais non,
c'est pas très efficace.
Dès le départ, c'est pas efficace du
tout.
Non,
c'est pas très efficace. Oui. Donc, en Europe, et puis, dans certains États des États-Unis, je crois, c'est 1000. En Europe, je suis sûr que c'est 1000. Et moins c'est élevé et mieux c'est. Québec, c'est 1500.
C'est énorme.
Alors qu'en fait, les autorités de la sanitaire ont dit non, il faut le mettre à 1000. Mais l'autorité de l'école a dit non, mais si on nous a dit ça marche à 1500, ou je ne sais plus qui a dit ça. Ce que je sais, c'est qu'on n'agit pas. C'est très étonnant qu'on reste à des valeurs élevées alors qu'on sait que les vraies valeurs, les valeurs les plus efficaces sont celles qui sont plus basses.
Et là, dans les écoles, ce qui s'est pas su, qui s'est pas sorti dans les journaux, il y a eu énormément de Covid là, dernièrement, parce qu'on l'a pas comptabilisé, mais beaucoup d'absents, autant des enseignants que des élèves. On s'est dit bon ben, on va pas isoler les enfants, mais le fait d'ouvrir les fenêtres, soi-disant, ça suffit pas, ça.
Non, de toute façon, il faut les ouvrir très souvent. Et puis, c'est vrai qu'on peut pas, on pourra pas non plus les ouvrir. Alors, on pourra pas les ouvrir non plus en hiver, hein,
non,
c'est sûr et certain.
Ici.
Donc, il faut trouver un moyen quand même.
Oui. Donc, il faut absolument faire en sorte que à l'armée, parce qu'on a l'automne revient, les enfants, il leur reste 2 semaines d'école, mais pour que ça change. Vous avez parlé en début d'entrevue. Il fait beau. Il fait chaud. Le rapport avec avec la Covid et le virus,
c'est simplement qu'on se disperse. Donc on se disperse. Donc on est dehors, c'est ventilé. Ça se dit, on se disperse. Donc il y a moins de concentration de gouttelettes et d'aérosol. Donc voilà, c'est principalement ça.
On a tendance à se disperser plus l'été.
Oui, c'est ça. Parce que quand on est en hiver, on est quand même confinés tous ensemble, que ce soit dans le métro, dans les bureaux, etc. On est quand même plus concentrés ensemble et on passe beaucoup de temps au même endroit. L'été, on a des activités, on bouge. On marche, on fait des promenades, on fait du je sais pas, on joue au frisbee, mais on n'est jamais en face de l'autre, on est loin, etc., etc. On joue avec son chien, on court. Donc, on bouge. Et on est loin d'un foyer d'aérosol. C'est pour cette raison, en fait. Ce qui fait que ça diminue relativement les chances de mutation, puisqu'il y a moins de foyers où il est là, il prolifère, le virus, il prolifère. Et en même temps, quand en hiver, il se donne toutes les chances de muter. Là, pour le moment, il y a un peu moins de chances de mutation.
Parce qu'on est plus loin l'un de l'autre finalement.
Oui, okay. On est plus exactement.
Le rhume, la grippe. Là, pendant 2 ans, les gens n'en ont pas eu.
Non, donc, là, ça explose. Prouve... Hein.
Ah ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Alors là, j'essayais de comprendre. Hein, ah, je suis pas médecin. Vous l'êtes. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que là, pendant 2 ans, on s'est dit, ah, ça y est. Même ceux qui prenaient un vaccin pour l'ont pas pris. Et ils ont dit, j'ai pas eu de rhume. Mais là, pourquoi l'explosion?
Tout simplement parce qu'en fait, c'est les mêmes causes, les mêmes effets. Le confinement, les règles d'hygiène, les barrières, les gestes barrières font qu'on n'a pas eu de grippe, comme on a moins eu de Covid. S'il n'y avait pas eu les gestes barrières, le Covid aurait explosé. Regardez ce qui s'est passé en Inde, par exemple. C'était monstrueux. Il n'y a pas eu tellement de gestes barrières. Ça a été monstrueux. Ici, il y a eu des gestes barrières qui ont évidemment fait s'élever beaucoup de voix contre, etc. C'était beaucoup de complotistes, entre guillemets, on dit ça sert à rien, c'est une dictature. Mais n'empêche que l'effet secondaire, c'est qu'il n'y a pas eu de rhume ni de grippe. De la même manière.
Parce et là, ça rattrape, là.
Alors là, maintenant, il y a eu des explosions. Et en plus, elles sont méchantes, les grippes.
Elles sont plus fortes, c'est ce qu'on a entendu.
Oui, elles sont méchantes, parce qu'en fait, d'habitude, on a tout le temps quelques petits virus qui entretiennent notre immunité. On est tout le temps un peu infecté par des virus. Il y a des centaines de milliers de virus, des millions de virus différents. Donc, on est quand même toujours stimulé d'un point de vue immunitaire. Et là, on était protégé. C'est d'ailleurs un petit peu...
Et là, pourquoi elle est plus forte, là? Parce qu'elle arrive... Parce que justement,
Notre système immunitaire est bas au point de vue grippal. Il s'est abaissé, il s'est endormi un peu. Et la grippe est la même. Mais par contre, elle est arrivée sur un terrain qui est devenu presque vierge. Alors qu'auparavant, elle arrivait toujours dans un terrain qui était toujours un peu méfiant, si on peut dire. Hein, puisqu'il y avait déjà eu un virus un tel, son cousin l'autre, etc., etc. Donc il y avait toujours... Il y a d'ailleurs beaucoup d'immunité croisée hein, quand même entre ces virus. Hein.
Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce rhume-là? Il passe au bout de 3 jours
Il y a un diagnostic différentiel à faire avec le Covid. Hein. Il faut quand même faire un test, de toute façon. Il faut faire un test, mais sinon, il n'y a rien à faire. Là, vraiment, c'est très désagréable. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de drame du tout.
Le 5 jours d'isolement, pourquoi on a changé ça? Au départ, c'était 10 jours. Oui. 2 ans plus tard, on est arrivé à 5 jours. Comment on explique le 5 jours? Il commence quand, d'ailleurs, le 5 jours?
Honnêtement, ce sont des choses que je ne comprends pas très bien. En fait.
Non,
c'est pourquoi 5 jours? Parce qu'en fait, on considère que maintenant, c'est une fois que sont passés les signes, une fois qu'on a été positivé, on devient négatif au bout de 5 jours. Au bout de 10 jours, au maximum, on est négatif pour le Covid. Hein.
C'est ça.
Au bout de 10 jours, on est négatif, mais on est moins contagieux au bout de 5 jours. Honnêtement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je crois que c'est plus de l'ordre du confort, en fait, parce qu'il faut passer la phase extrême et la phase la plus importante de la contagion. Et après quoi, on peut sortir et on peut ne pas se mélanger, hein, c'est sûr, mais on peut sortir et on peut ne pas se rester confiné.
Vaccin, la question. Bon, premier, deuxième, tout le monde a adhéré. Troisième.
Ouais, beaucoup moins.
Ils ont vu les premiers ministres, Trudeau et puis Legault, enfin tout le monde a attrapé la Covid. Ils se sont dit, ah ben non, eux, hein, ils sont supposés être nos exemples et puis ils ont eu leur vaccin, alors pourquoi j'irais pour le troisième?
Ça me fait penser, en France, on a vu une ministre qui était Madame Simone Veil qui fumait, qui avait dit il faut interdire le tabac à l'hôpital. Et je voyais, à l'époque j'étais étudiant, j'étais interne en réanimation et je voyais un infirmier qui arrivait et puis qui arrivait avec une cigarette au bec en réanimation et puis je dis arrête, faut pas fumer quand même, elle a dit qu'il fallait pas fumer. Ah oui, mais elle fume. Ben non, c'est pas une raison. En fait, c'est scientifiquement, c'est vrai que la troisième vaccination, c'est utile parce que ça augmente la réponse, en tout cas des anticorps. Et ça entretient, vous savez qu'il y a deux niveaux d'immunité. Les anticorps qui viennent bouffer les virus. Et puis vous avez derrière, vous avez tous les lymphocytes qui sont là et qui sont en arrière-garde pour arriver eux-mêmes et défendre le corps humain. Donc nous perdons les anticorps au fur et à mesure du temps, mais nous gardons notre mémoire lymphocytaire, c'est-à-dire les cellules immunitaires qui sont là. Elles sont toujours là. Par contre, elles sont lentes à se mettre en route.
Oui.
Les anticorps, c'est immédiat.
Mm.
Donc, le troisième booste le nombre d'anticorps et rappelle aussi aux lymphocytes quand même qu'il y a des agresseurs potentiels qui existent et que peut-être qu'il faut rester aux aguets.
Oui.
Le quatrième, c'est pas forcément... Alors, le troisième, très utile, mais le quatrième, pour le moment...
Est-ce qu'il y en a qui le prennent, le quatrième? Parce que déjà, qu'il y a une bataille pour le troisième, il y a le quatrième,
oui. Oui, j'ai vu, là, je vois, entre la France et le Canada, entre la France et le Québec, je vois beaucoup de gens âgés, très âgés, prennent le quatrième par précaution.
En France ou les deux pays?
En France. Ah, oui. Et dans les deux pays aussi, hein, parce que j'en vois aussi, j'ai des amis qui sont plus âgés, assez âgés, et qui ont pris le quatrième aussi.
Bon.
Et tous ceux qui sont immunodéprimés ont intérêt à prendre malgré tout le quatrième, parce que le quatrième correspond peut-être à un deuxième et demi ou un troisième pour eux.
D'accord. Hein? Donc alors,
parce qu'ils sont, ils n'ont pas une immunité très très puissante et très alerte. Donc ils ont intérêt à se faire booster un peu plus. C'est un peu comme quelqu'un qui a du mal à monter l'escalier. Il faut le pousser. Et bien voilà. Et ben le quatrième, c'est un peu le troisième. Voilà.
Le quatrième, vous appelez l'ascenseur.
C'est ça. Voilà.
Alors on va faire une pause. Donc j'ai choisi la chanson de Renaud au tout début de la pandémie et il a fait une chanson. Mais comme les Français font souvent en anglais, ils disent Corona Song, mais là, moi, je vais dire la chanson de Renaud. Corona, voilà, on l'écoute.
Vous écoutez Sophie Stanquet à Radio Centre-Ville.
Coronavirus, connard de virus. Débarqué un jour de Chine, retourne-y quand il confine. Dans ce pays où on bouffe du chien, des chauves-souris, du pangolin. Moi devant ma télé pourrie, entre BFM et LCI, je cogne sans cesse Arlette Chabot ou la pauvre Roselyne Bachelot. J'en peux plus d'être planté chez moi, je veux voir le monde comment il va. Je veux respirer de l'air bien pur, je veux retrouver la nature. Coronavirus, connard de virus. Coronavirus, connard de virus. Mais le pire, c'est que ces salauds, ils vont fermer tous mes bistrots. Je peux plus boire ma flotte peinard avec mes potes, le désespoir. Même pas un petit restaurant fermé pour cause de confinement. Faire la queue avec ses blaireaux pour un pauvre menu McDo. Les caissières de l'Intermarché, on aura le bol, je les comprends. Elles sont masquées toute la journée, quant à leur salaire, parlons-en. Coronavirus, connard de virus, crevard de virus, coronavirus. Brave docteur Aoud, on chie par des confrères jaloux, par des pontes, des sommités, qui ont les moules de perdre du blé. Je me dis que monsieur Juste Blasi, il parle toujours que des conneries, mais ce monde est plein de voyous, qui voient le mal un peu partout. Moi je m'en fous, je suis immunisé, j'ai des anticorps par milliers, j'ai aussi des anticons, faut dire qu'en France, ils sont légion. Coronavirus, connard de virus, crevard de virus, coronavirus. Heureusement, en ces temps malsains, tu as épargné les gamins. Tu n'as pas touché aux enfants, ces petits êtres innocents. Sont plus séchés l'école un peu, et vivre des moments joyeux. Sans les copains, sans les poteaux, avec leur console Nintendo. Ah donc salaud, virus enfin, chez nos amis américains. Ah bah ils ont une autre maladie, c'est Donald Trump et sa connerie. Coronavirus, connard de virus.
Alors, docteur François Barouel est avec nous en studio. On fait le point justement sur coronavirus et aussi on va parler de très important donc de la variole du singe. On va terminer avec la Covid. Donc on parlait de vaccin. Maintenant, ceux qui l'ont eu se posent la question. J'ai eu par exemple j'ai eu quelques messages aujourd'hui, les gens me posaient la question: est-ce que je dois quand même me faire vacciner pour la troisième dose?
Ça dépend quand est-ce qu'ils ont eu la Covid, sachant que quand on a eu la Covid, surtout l'Omicron, oui. Le BA4 et BA5, on a des risques de se réinfester au bout de quelques temps, assez rapidement. Donc, si on a eu la Covid il y a 3 mois, on peut attendre encore 2 ou 3 mois. Mais à 6 mois, oui, il faut le faire. Il faut se dire que la Covid qu'on a eue, c'est comme un booster. Et le booster, ça dure 6 mois. Donc autant refaire un vaccin. Et on s'est aperçu d'ailleurs dans certaines études que j'ai lues il y a à peu près 3 semaines que lorsqu'on faisait un vaccin, mais ça c'est un petit peu, il faut le vérifier, mais quand il y a un vaccin qui est fait un mois après avoir eu le Covid, la réponse est presque explosive par rapport à un vaccin normal. Alors est-ce qu'il faut en tirer parti? Peut-être. Mais avec méfiance, parce que si c'est explosif, il ne faut pas non plus se retrouver dans la situation d'un orage cytokinique. Hein, vous savez, ce qu'il y avait avec le premier vaccin, avec le premier virus d'origine, puisque les problèmes pulmonaires venaient de là. Donc, il faut savoir si c'est utile ou pas. En tout cas, actuellement, en connaissant ce qu'on connaît, en sachant ce qu'on connaît, il vaut mieux attendre 6 mois après, et là, on refait un vaccin, on fait un troisième vaccin. Moi, j'ai attrapé le Covid en France, hein, et il y a à peu près maintenant 2 mois, je vais faire mon vaccin en septembre pour être prêt pour la flambée qu'il va y avoir en septembre probable.
Oui. Ah, voilà, la question qui tue et la dernière avant qu'on embarque dans la variole du singe. Est-ce qu'on est débarrassé de la Covid? Est-ce que, là, ça va, la vie est belle, on joue au frisbee, on s'amuse dans l'eau et tout. Et en septembre, on va entendre qu'il faut être confiné?
Peut-être pas confiné, mais en tout cas, il va falloir s'attendre à avoir peut-être bien des nouveaux variants, c'est possible, parce que dès l'instant qu'on va se reconfiner, il va y avoir de nouveau quelques cas. C'est en fait, dès l'instant qu'on a des confinements, ou du moins des regroupements, je parle pas de confinement, des regroupements de personnes, c'est-à-dire qu'il y aura plus de monde dans le métro, qu'il y aura plus de monde dans les bureaux, etc., on risquera d'avoir de nouveau une augmentation des cas. Ça, c'est probable. Bon, pour le moment, avec les Omicron qu'il y a, c'est pas trop trop agressif et il y a de moins en moins d'hospitalisations et de moins en moins de décès. Donc on peut s'en tirer, pour le moment, c'est pas trop grave. Mais on s'attend à avoir de nouveau des mutants. Ça, c'est sûr, ça c'est probable. On peut pas dire c'est sûr et certain. C'est toujours probable en médecine, hein, c'est probable. Ouais. Et il n'est pas impossible que ces nouveaux mutants soient plus méchants. On ne sait pas.
Et pourquoi ne pas plancher au lieu du vaccin sur des remèdes et qu'on n'a pas fait ça depuis le début, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, on a mis beaucoup d'énergie pour développer des vaccins, mais peut-être moins pour soigner, pour trouver quelque chose pour soigner.
Il y a maintenant un médicament qui est très efficace qu'on donnait au compte-goutte,
c'était vraiment
compliqué,
très compliqué de l'avoir.
Alors que ça devrait être comme un antiherpétique, c'est comme un bouton de fièvre, comment ça s'appelle?
L'herpès.
Oui, un herpès. Non, mais comment est-ce qu'on appelle ça? Un bouton de feu,
un feu sauvage.
Un feu sauvage, voilà. C'est très joli ça. C'est
vrai, il y a une chanson ici, le feu sauvage de l'amour. Là, vous connaissez.
C'est très bon.
C'est une vieille chanson.
C'est la maladie transmissible par le baiser aussi.
Oui,
hein, donc...
C'est ça. C'est RBO hein, qui chantait ça, Rony.
C'est très drôle ça. Et donc ça on donne maintenant, on donne des antiviraux, hein, des antirétroviraux, puisque c'est un rétrovirus, c'est encore une autre sorte. Mais on donne ça tout de suite. On en met en crème, on les prend en comprimé, et là, en une journée, c'est réglé. Hein? Donc, on a la même chose maintenant pour la Covid. Hein, mais il fallait le donner avant les 5 jours, avant les 5 premiers jours. Très bien, donnons-le les 5 premiers jours. Mais il fallait passer par la pharmacie, machin, etc.
Bah oui.
Ce qui fait qu'on arrivait au 6e ou au 7e jour, c'était trop tard. Donc maintenant, c'est bien libéralisé. Donc, on doit arriver à pouvoir l'avoir rapidement. Donc ça permet quand même de bloquer la chose, ou au moins de rendre la Covid extrêmement peu grave.
C'est ça, et soigner.
Ça existe.
Exactement.
Ça existe, mais il faut le mettre à la disposition de tout le monde.
Ouais. Alors là-dessus, le politique devrait se pencher davantage. Alors, donc, la variole du singe, ça vient de sortir. Mmh. Ça a commencé en Europe. Il y a quelques cas ici. Bon, on entend beaucoup de choses. Hein. On entend que ça, c'est bon dans le milieu des homosexuels. Qu'est-ce que c'est au juste?
C'est un cousin de la variole. C'est un petit cousin de la variole. La variole est une maladie qui tuait, faut pas l'oublier, à 30%,
oui, tout à fait.
30% des cas.
C'est celle qu'on a réussi à enrayer, finalement.
Voilà, grâce à Jenner, qui lui-même a piqué l'histoire aux Chinois, qui lui-même avait piqué l'histoire, etc.
C'est toute une histoire.
C'est toute une histoire, mais ça date de la nuit des temps. Hein. La vaccination, finalement, c'est quelque chose qui est assez vieux. Et grâce à ça, on a éradiqué la variole du monde. La vaccination a été arrêtée, l'obligation de la vaccination a été arrêtée en 1974. Et depuis, il y avait quelques cas, il n'y avait pas de cas, mais il y avait, par contre, on avait gardé les virus en stock, hein, d'accord, pour fabriquer des vaccins, etc., etc. À l'époque, on se faisait vacciner contre la variole avec un vaccin qui était un vaccin de classe 1, enfin, de première génération, qui était un peu violent. Le deuxième était plus confortable, mais il y avait quand même des réactions violentes. Mais bon, c'était des réactions violentes, mais au moins, on ne mourrait pas. Donc on s'est tous fait vacciner. À partir de 1974, on ne vaccinait plus. Donc, la variole du singe est un cousin qui est sensible au vaccin contre la variole. C'est une variole très atténuée. Elle se manifeste par de la fièvre, puis ensuite des ganglions. Les ganglions grossissent. Puis ensuite, il y a des douleurs dans les jambes, dans les bras. Et puis ensuite, on se retrouve avec des macules, des papules qui deviennent des pustules, qui crèvent et qui suintent. C'est assez répugnant à raconter comme ça. Hein. Et enfin, ça finit.
Vraiment, on n'est pas beau.
Ah, mais c'est pas fini.
Ah bon,
ça se termine. Ça se termine par des grosses croûtes et les croûtes finissent par tomber. Et bon, à partir du moment où il n'y a plus de croûtes, bah oui, quand même. sinon, ça fait un film d'horreur.
Oui, oui.
Et les croûtes finissent par tomber. Une fois qu'elles sont tombées, eh bien, on n'est plus du tout contagieux, mais dans les croûtes, il y a encore des virus qui restent là, quiescents, et qui sont capables d'infecter le personnel soignant ou les gens qui font les draps, qui font le tétanos. C'est comme ça qu'on a vu, à l'hôpital, on a eu des cas, quelques cas, du personnel qui faisait les lits et qui a attrapé la variole du singe à cause des croûtes. Voilà, bon. Donc, il faut se dire que c'est contagieux à partir par les gouttelettes dès les premiers contacts, ou deux jours après les contacts, la contagion. Par les gouttelettes, si on vous parle, si on éternue, c'est exactement comme pour la Covid. Hein. Ensuite, c'est par le contact avec tout ce qui est fluide, ce qui fait qu'on dit que ça peut être transmis sexuellement.
Hein? Oui, puis moi, de cibler comme ça, moi, j'ai pas aimé qu'on cible carrément des gens, de dire que c'est eux, ça ils auraient pu. Je sais que c'est scientifique, mais de cibler des personnes.
Mais c'est pas grave que ce soit eux. Il se trouve que, en fait, c'est dans des milieux de HSH. On dit HSH, très, très chic. Mais en même temps, c'est pas mortel. Ensuite, c'est pas forcément en relation avec un acte sexuel, c'est simplement en relation avec un contact serré.
Voilà.
Donc ça peut être dans n'importe quel groupe.
Okay.
Donc il se trouve qu'en fait, ça a démarré dans des groupes où il y avait une majorité d'homosexuels, mais c'est tout.
Oui, c'est ça.
Mais si ça avait été dans une église, on aurait dit, mais attendez, c'est les croyants.
Oui, je suis sûre, mesdames, messieurs, que vous avez eu la même réaction. Ça y est, ciblé tout de suite. C'est vraiment des raccourcis qui font très mal.
C'est un ostracisme qui est toujours tentant, parce que c'est vrai que nommer le mal, il est moins mauvais.
Voilà. Alors, est-ce qu'il est mauvais, cette variole? Est-ce que c'est...
Non,
est mauvaise?
Ouais, c'est pas très mauvais, c'est pas agréable. On est obligé, évidemment, il faut quand même, là encore, se confiner pendant 3 semaines. Là.
Ah, 33 semaines?
Ouais, il vaudrait mieux. Enfin, il vaut mieux, parce que c'est vrai que si on se met en contact...
De toute façon, vous avez dit qu'on n'était pas très beau non plus, là.
Ah, non, franchement, non.
Personne ne veut sortir comme ça.
Non, personne ne... Ou alors, il faut mettre un masque ou vraiment plus. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux se protéger les autres, principalement, parce que c'est vrai que c'est contagieux. On ne connaît pas encore le niveau de contagion. Il est naturellement bien inférieur à celui de la Covid, bien entendu. Bien entendu, moins inférieur à celui de la grippe. Mais c'est contagieux quand même par les gouttelettes. Et on ne sait pas exactement, complètement comment. Parce que c'est, on dit, c'est les homosexuels. Mais c'est pas des actes sexuels, pas forcément des actes sexuels. C'est des gouttelettes, c'est les croûtes, mais il y a des gens qui attrapent comment?
Mais il y a, un vaccin,
c'est un peu mystérieux.
Il y a un vaccin.
Le vaccin.
Qui a été fait depuis longtemps, hein. Voilà. C'est pas d'hier.
C'est le vaccin de la variole.
Oui.
C'est le même vaccin de la variole qu'on a arrêté en 74.
Et qu'on ressort maintenant.
Et qu'on maintenant ressort en version 3, beaucoup plus confortable et qui n'a pas d'effet secondaire.
Docteur François Baruel, c'est un plaisir, un grand, grand merci.
Merci beaucoup.
Merci à toute mon équipe. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Sophie Stanko au micro, une réalisation de René Di. Bye bye.